Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Cette semaine, nous avons le plaisir d'avoir dans nos studios de la rue d'Assali, Elisabeth Aragon. Elisabeth Aragon, bonjour.
Bonjour.
Elisabeth Aragon, déjà familière de cette, de cette émission, puisque nous avons eu l'occasion donc de réaliser des émissions avec elle, soit sur son œuvre, soit parce qu'elle accompagnait d'autres poètes donc, qui étaient l'objet de cette émission. Et aujourd'hui, elle arrive avec, en définitive, deux casquettes. La première casquette, c'est évidemment sa casquette de créatrice de poésie, c'est-à-dire de poète. Elisabeth Aragon, qui va nous parler de ses derniers recueils, Horizon Andalous, Garde-moi de l'oubli et Les pas ombrés. Mais également, Elisabeth Aragon arrive ici avec une deuxième posture, celle de directrice d'une collection d'une maison d'édition, une maison d'édition de notre région, qui est dans notre région, dans l'Occitanie, qui est en Ariège, et qui s'appelle Hasard Atelier.
Hasard Atelier Édition.
Hasard Atelier Édition.
Qui était à Toulouse pendant de nombreuses années, et depuis deux ans, peut-être deux ans et demi, à Pamiers.
À Pamiers. Et dans ces éditions, Elisabeth Aragon.
Alors, l'édition, c'est oui. Daniel Roublin, éditrice. Oui. Et moi, je dirige une collection de poésie qui s'appelle Esparto.
Alors, d'abord, Esparto est une collection de poésie.
De poésie. Française. Alors, et espagnole. Et puis, d'autres langues qui apparaissent peu
d'accord.
à peu.
Oui, on en parlera tout de suite. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est l'Esparto?
L'esparto, c'est une fibre naturelle. On connaît cette fibre sur les marchés, on le voit. Il y a beaucoup d'objets, parfois des cactus, des ânes, des paniers. Bon, ça vient du Maghreb, principalement dans nos marchés. Mais en Espagne, dans les régions désertiques, notamment Andalousie et du côté de Murcia, il y avait beaucoup d'esparto, il y en a encore beaucoup. Et on fabriquait beaucoup d'objets usuels, les tapis, les bas pour les ânes, les volets pour les fenêtres, ce qu'on voit à Cordoue parfois. Voilà. Et de la pâte à papier. Beaucoup d'esparto étaient envoyés en Angleterre, notamment, pour faire de la pâte à papier.
Et donc c'est à la fois symbolique du fait que ça pousse dans une aire aride et que... Et
voilà, c'est un attachement à un village... Oui. qui est Gorafé, non loin de Guadix, où il y a une tradition très importante de personnes qui travaillaient l'esparto. Et c'est un métier très très difficile, c'est une plante très difficile à arracher, couper, c'est vraiment très complexe. Et pour moi, il y avait le lien entre cette plante qui a servi à faire de la pâte à papier... le fait qu'on ait trouvé dans des dolmens, parce qu'à Gorafé, il y a plus de 250 dolmens, ce qui paraît incroyable, mais on a trouvé aussi dans des grottes préhistoriques habitées, on a trouvé des chaussures tressées. Et bon, des objets usuels, mais notamment des chaussures tressées. Donc il y a aussi cette dimension du pas et de la continuité.
D'accord. Très bien. Alors, combien de ces éditions
existent? Juste un petit détail un peu drôle pour moi, mais alors la charte graphique aussi de la collection, la photo, c'est toujours de l'esparto, donc cette fibre qui peut être étirée, qui peut être...
On voit
de différentes manières, mais en fait, à l'origine, cette photo est une... qu'on voit sur le recueil Horizon Andalou en espagnol, c'est comme une éponge. On tire les fils, on prend cette fibre et on peut nettoyer les casseroles, les assiettes. Enfin, c'est une éponge naturelle qui sert toujours d'ailleurs.
Oui.
Voilà.
D'accord.
Un petit clin d'œil.
D'accord. Bon, c'est bien d'avoir donné ces explications parce que effectivement, on voit dans tous les recueils, d'une façon graphique d'ailleurs différente dans chacun. Cet esparto donc qui est le symbole de cette collection. Alors, dans cette collection, ont été publiés Gilbert Azam, dont nous avons parlé la semaine dernière.
La Marche étoile, un recueil posthume.
La Marche à l'étoile, donc, Gilbert Azam, c'est un recueil posthume, hein, c'est le premier recueil posthume publié dans cette collection. Auparavant, il y avait...
Dans la chronologie, on peut dire qu'il y a Horizon Andalou. Horizon Andalou avait été édité par Hasard Atelier, oui. Et puis il a été traduit par Mathilde Munoz, et on a et donc c'est le, il a été édité dans la collection Esparto. Ensuite, il y a eu Muriel Modoli.
Muriel Modoli, alors c'est une...
Muriel Modoli qui est devenue depuis peu maître, voilà, toulousaine, et qui est devenue maître et jeu aussi.
Maître et jeu de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, qui nous vient de La Réunion.
De La Réunion.
De La Réunion, et qui est bibliothécaire, donc, à la ville de Toulouse.
Et tombée la nuit, jour 9.
La nuit, jour 9, donc toujours dans la même collection. Et ensuite...
Alors, une autre poétesse, Paulina Kamakine, avec un recueil. Alors là, ça a été une aventure. C'est une aventure parce qu'en fait, c'est pas simplement en langue française, mais il y a quatre langues. C'est Paulina Kamakine qui écrit en langue gasconne. Donc, on a fait un livre avec en vis-à-vis quatre langues. Donc, le gascon, le français, le catalan et l'espagnol. Avec... pour chaque langue, une typographie différente. Et on peut lire simultanément, enfin, ou s'essayer à lire, ou mieux comprendre les associations, les traductions, voilà, des poèmes, de la prose de Paulina.
Alors, c'est très original, hein, comme, parce que quatre langues comme ça qui se présentent aussi de temps en temps, donc sur la même page, où on peut avoir ce regard.
Oui, on a mis en exergue un peu plus de façon la langue gasconne, qui est sa langue poétesse,
qui est en caractère un peu plus grand,
voilà, un peu plus foncé, donc, qui ressort. Mais c'est vrai que ça a été complexe à faire, mais on a réussi à le faire.
J'imagine. Alors, Paulina Kamakine, c'est une grande voix de la poésie gasconne actuelle. Hein. Elle est connue par exemple pour son anthologie de la poésie des femmes, des femmes, hein, qui a eu un succès de librairie réelle. Hein. Et c'est la voix de, parce que le gascon reste quand même dans le monde occitan. Une langue un petit peu, comment dirais-je, dont les locuteurs sont réduits par rapport aux autres, par rapport aux langues d'ossiens, par rapport au provençal, quand même le gascon, il y a moins de locuteurs, ce que disait Bernard Manciette, hein, il disait nous sommes peut-être 3 ou 4 000 locuteurs de gascon. Mais c'est une langue occitane, mais une langue occitane avait pas mal de particularismes, et il se trouve que Paulina Kamakine a épousé cette langue. C'est un acte très volontaire chez elle d'être dans cette langue-là plutôt que dans la langue d'ossien. Mm. Voilà. Alors là, ça s'appelle l'auto...
La haute demeure, l'autre demeure. C'est en train de bien français. Alors étonnamment, ce qui est étonnant, en fait, quand je réfléchis un petit peu, c'est qu'il y a toujours une continuité. C'est la rencontre qui initie beaucoup mon choix aussi. C'est la poésie et la rencontre avec une écriture, mais aussi la rencontre humaine. Et je me rends compte là en voyant ces livres, on n'a pas tout évoqué, mais en voyant ces livres, qu'en fait tout est lié souvent au passage, à la continuité, à la mort et à la vie qui perdure. C'est vrai que c'est un fil conducteur qui n'est pas choisi, qui n'a pas été volontaire de ma part, mais qui se dessine, pas forcément peut-être pour les prochains, mais qui se dessine là sur quelques livres. Voilà, je pense parce qu'il y a aussi Garde-moi de l'oubli.
Oui, voilà. Alors ça, c'est
un de mes recueils, mais
Elisabeth
une
Rambon,
réédition
de l'oubli.
Et qui évoque... l'attente de la mort de voilà, un, voilà. un texte en prose très particulier, oui. Mais c'est vrai que quand on met bout à bout, voilà, la puissance de la vie au-delà de la puissance de la mort. Voilà, je définirais un petit peu un fil conducteur qui s'est offert petit à petit.
Enfin, c'est une collection qui s'étoffe quand même, hein, maintenant.
C'est une aventure un peu folle, oui, moi, je dirais, parce qu'un peu de temps, 2024... Oui. Fin 2023 pour commencer, 2024, oui, pour moi, le très important aussi, qui est la beauté du papier, parce que ce n'est pas numérique non plus, comme impression, la beauté, la qualité du papier, la qualité du graphisme, le choix des typographies, oui, il faut que tout fasse corps avec la poésie et mette en valeur aussi les poètes. Poétesse.
Alors, on rappelle, Hasard Atelier.
Hasard Atelier, vous pouvez regarder sur Internet, on trouve, tapez collection Esparto, ça apparaît tout de suite.
Esparto, vous aurez donc tous les détails.
Tous les détails et les futures publications. Voilà.
Et vous pouvez le commander directement sur le site. Alors, Elisabeth, on va maintenant quand même parler de toi. Donc, Elisabeth Aragon, poétesse. Membre de l'Académie des Jeux Floraux, maître des Jeux de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, qui a une œuvre qui est maintenant commence à être assez conséquente.
Oui, j'ai toujours un peu de mal à dire conséquente. Oui, une petite œuvre, enfin une continuité de temps depuis le premier recueil jusqu'à maintenant, et j'espère les suivants.
Alors, les deux derniers, il y a dans les deux derniers quand même un ton très sérieux, pour ne pas dire tragique. Alors, le premier, c'est « Garde-moi de l'oubli ».
De la collection Esparto, parce que sinon, le premier, c'était...
Oui, le premier, pardon, excusez-moi.
C'est très loin. Non, le premier s'appelle La Découvrance, et c'est de 1987 ou 88, je ne sais même plus. J'ai un gros problème avec les années et les dates, ça c'est... je crois qu'il ne faut pas me demander si c'est ma date de naissance, mais après me demander plus en détail même la date. Bon, voilà. Non, c'est sûr que là, si on parle de Garde-moi de l'oubli, effectivement, ben c'est de l'ordre du tragique, hein, puisque ça évoque les derniers moments d'une personne qui est malade, qui a le sida et qui va mourir et qui est dans son lit et qui attend et qui se révolte. Et c'est un cri. La semaine dernière, on évoquait un lianto par rapport à la marche à l'étoile, mais c'est exactement cette dimension-là. Oui. De l'attente et de la révolte et de la quête de l'amour aussi et de ne pas être oublié. Garde-moi de l'oubli, voilà, en l'occurrence, c'est une des dernières paroles que m'est dite Jean-Marc, pour qui j'ai écrit ce livre, qui était mon meilleur ami. Et oui, Garde-moi de l'oubli, c'était comme une évidence après écrire.
Oui. Je crois que les cours s'appellent ça aussi le Vocero.
Le Vocero.
Donc, c'est Vorace. Mais en même temps, garde-moi de l'oubli, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si on garde quelqu'un de l'oubli, c'est une façon, la seule façon qui est possible de le garder présent. Mm. Hein? Parce que quelqu'un ne meurt véritablement que lorsque on l'a oublié. C'est l'oubli qui est la vraie mort, c'est l'oubli total.
C'est ne même plus que même pas des fois un nom effacé sur une tombe. Oui. Mais c'est vrai que Jean-Marc est mort jeune, 29 ans.
Oui.
Et il était ténor. Et c'est au moment où il commençait avec les arts florissants notamment, et où il avait fait il était dans le trou vert aussi. Enfin, au moment où il allait avoir une carrière de chanteur. Fulgurante, en fait, toute sa vie, c'est la fulgurance, en fait. Mais au moment où les choses étaient engagées pour une reconnaissance en tant que ténor, où la maladie s'est déclarée, après des années et des années où tout était en sommeil. Et c'est vrai que, pour moi qui avais déjà l'écriture, et pour moi, c'était une évidence aussi de lui donner aussi
En tout cas, c'est le plus bel hommage.
Cet hommage, oui.
Et en définitive, le plus beau don que tu aies pu lui faire.
Oui.
Voilà, c'est une façon de le sortir de l'oubli, c'est le sortir aussi de la mort pour les vivants, puisque on va parler de lui. Alors après, garde-moi de l'oubli. Je pense qu'on avait dû en parler ici.
Je crois pas. Non, je n'ai pas le souvenir, mais non, peut-être, je ne sais pas. Mais oui. Voilà.
Bon, on peut peut-être en lire, tu peux peut-être nous en lire quelques extraits, si tu veux bien.
Allez, donc j'ouvre un peu.
Publication suivante.
Tu n'oses plus rien dire. Ces chiffres renversés au rasoir de l'attente. Le corps a résonné dans un port de silence. Même le cœur qui bat ne t'est plus familier. Tout semble si faussé, tellement dérisoire. La musique écarte un peu ta peine. Tu as si peu de temps, le couperet du vide, l'implacable leçon de quatre lettres noires. Ce sentiment si fort d'une échéance brève. Tu pars déjà de toi. Tu te plais à saisir ce temps comme une écharpe. Le vent si fou dévide la haine. Tu sais ce qui est sûr au cachet de tes reins, tu furettes aux encoignures, tu as si peu de haine devant ton existence. Le scarabée doré de la mort s'infiltre, ce rideau des jours par une main givrée. Tu dis des mots des fleurs pour masquer l'angoisse. Tu ne veux pas mourir, tu ne veux pas encore.
Voilà, donc Garde-moi de l'oubli, d'Elisabeth Aragon, aux éditions Hasard Atelier, collection Espartout. Et puis le dernier, Les Pas Ombrés. Alors, Les Pas Ombrés.
Les Pas Ombrés.
Je l'ai relu pour préparer cette émission. Et alors que je l'avais déjà lu, il m'a semblé le découvrir. C'est très curieux comme impression. Et j'ai retenu, si tu veux, le miracle de la langue. Il y avait une espèce, connaissant déjà les textes, j'ai trouvé qu'il y avait dans la langue un travail qui m'a complètement enthousiasmé. De rassemblement, de notions, de surprises, la langue, comment tu arrives, en définitive, à garder toujours un effet de surprise dans chaque poème, par les recoupements, par l'assemblage de notions qui semblent s'exclure les unes des autres. Alors, je pense que c'est fait dans un certain moment, avec beaucoup d'inconscience. L'inconscience doit jouer là-dedans. Mais il n'en demeure pas moins que j'ai trouvé que ces poèmes, véritablement, dans leur... Ce sont, il y a quelque chose qui est tellement raclé à l'os un peu,
oui,
tellement
un peu,
dense... Oui. On a l'impression que tu as expurgé tout ce qui pouvait pouvoir alourdir, pouvoir ne plus avoir véritablement de place pour aller à l'essentiel de ce que tu veux dire. Donc il y a un dépouillement qui m'a sauté vraiment à la gorge là quand j'ai relu ces textes. Et je n'avais pas eu cette impression la première fois. Peut-être parce que j'étais allé trop vite, peut-être parce que je connais ce que tu écrivais avant, ce que tu as écrit avant, mais là, je t'assure,
c'est encore
dans
autre chose.
Lecture, peut-être étais-je plus concentré aussi, mais je t'ai regardé presque au scalpel, quoi, en disant, et ce dépouillement, ces textes avec des vers, avec peu de mots, trois, quatre mots en vers, mais qui ne sont pas non plus, c'est pas les AIQ.
Non, c'est très...
Voilà. Il y a une puissance.
Le dépouillement, le scalpel, je crois que ça, voilà. C'est vraiment, ça c'est lié au thème aussi. Hein.
Oui, voilà, c'est lié au thème. Alors, voilà.
C'est un peu complexe parce qu'en fait, bon, plus ça va, plus des fois je me dis, mais qu'est-ce que je vais écrire la prochaine fois, parce que j'ai l'impression que je vais plus écrire ou je vais écrire trois mots et ça sera fait. Ça sera le dépouillement. Effectivement, je vais faire quelque chose de très...
Mais c'est percutant.
Du jet, de l'ordre de... Alors, oui, percutant, alors, de la pierre, de...
Oui. Tu as alors, dit c'est lié vrai, au thème. Alors, ça s'appelle les pas ombrés.
Alors,
le thème m'a aussi... enfin, on ne peut pas rester indifférent. C'est un thème qui interpelle. Et c'est le poète qui contemple le monde... Et qui contemple un monde qui est en train de se détruire.
De se détruire, de nous figer, de nous désespérer.
Voilà. Donc, il y a...
Ben, le thème, c'est la guerre, en fait, l'actualité.
De la guerre.
Des guerres.
Des guerres.
Qui pourraient se démultiplier, parce que là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais le thème de la guerre d'Espagne.
Oui.
De l'Ukraine.
En filigrane, alors il y a en filigrane
voilà,
la guerre.
Il y a trois. Voilà, trois...
Il y a la guerre d'Ukraine et il y a Gaza.
Et il y a Gaza. Voilà. Mais ça aurait pu être à l'infini, malheureusement.
Oui.
Mais en fait, ce qui s'est passé, j'avais commencé à écrire avec l'actualité, voilà, l'actualité qui nous saute à la gorge. Et en fait, j'ai beaucoup écrit. Alors j'avais commencé, d'ailleurs, à une émission, j'en avais lu certains, mais qui ne sont pas dans ce recueil, ou que j'ai retravaillé. Et en fait, ce qui s'est passé, j'étais en Espagne. Dans l'antre de la cueva, mais aussi tous les matins à la piscine. Et c'est un lieu de refuge. C'est un lieu vraiment de refuge. Presque trop, parce qu'après, pour se remettre dans la vie réelle, ça peut être complexe. Et en fait, j'allais à la piscine, voilà, tout bêtement. Et puis, je prenais mon carnet pour écrire. Et je sortais de l'eau, j'écrivais. Mais j'étais comme hantée. J'avais le sentiment
à
100 000 lieux des événements.
C'est ça qui m'a le
100 000
plus
lieux des événements, mais derrière, je crois que tout était là.
Oui,
en fait, j'étais prise par cette nécessité absolue d'écrire sur ces trois guerres et sur ce que vivent les gens au quotidien. Parce qu'en fait, pour moi, c'était comment on part d'une maison, comment on quitte la cour de récréation, comment quelque chose du simple quotidien de la vie ordinaire peut prendre une dimension intemporelle, une dimension tragique. Et voilà. Et ça peut être autant il y a 80 ans que maintenant. Donc, à tel point que c'est une anecdote, c'est que j'étais tellement prise, donc je nageais et puis hop, j'allais écrire un peu, qu'à un moment donné, il y a un couple d'amis qui étaient aussi à cette piscine et qui m'ont vue et qui m'appelaient, qui me faisaient signe et moi je ne les entendais pas. Et tout le monde autour, alors à l'Andalouse, c'est très vivant, tout le monde m'appelait, m'interpellait comme si moi je faisais. Mais c'est pour dire à quel point j'étais dans ma bulle, en fait, dans ma bulle d'écriture. Et c'est vrai que ces petits poèmes sont... il y a l'ordre du scalpel. C'est pas que je vais déterrer les corps de la fosse commune, mais presque. C'est de l'archéologie, parfois, presque, on va dire, de guerre. Enfin, moi, j'ai le sentiment d'avoir... d'être témoin et de rendre témoin de quelque chose qui, malheureusement, peut être commun à toute famille, à tout enfant... Parce que notre monde est fait de ça et qu'on n'arrive pas à s'en sortir de ces catastrophes humaines, politiques, tragiques.
Alors, il y a quelque chose de très paradoxal dans ce que tu viens de nous dire. C'est, et qui en même temps peut expliquer, et je crois justifier, je dis bien justifier, la posture poétique. C'est-à-dire que tu nous dis que c'est dans le moment de grande sérénité, Là où tu es, un peu coupé du monde, dans un endroit privilégié,
beau,
où tu n'as pas de tâches particulières à accomplir, etc. Donc il y a une liberté de penser, une
sérénité.
Dans
une forme de plaisir, de bien, de bonheur.
Et là, ta pensée et ta posture poétique, c'est-à-dire... cette posture qui va te relier à toi, en définitive, à l'humanité, parce que c'est le vrai poète, c'est celui qui arrive à se relier à l'humanité, donc à l'universalité aussi, hein, ce que connaissent et vivent les autres. Tu vas pouvoir témoigner de situations dont tu n'as pas été le sujet, dont tu n'as pas, tu n'as pas vécu, mais que tu sais que cela s'est passé et qui a imprégné ta conscience à tel point que tu arrives par le miracle des mots. Bon, et puis, parce que tu es poète aussi, et que tu as ça en toi, au plus profond de toi-même, que c'est ce qui te définit totalement, c'est cette faculté d'avoir la langue qu'il faut pour dire ce qu'il faut, ce que tu ressens, et que tu sais le faire. Et à ce moment-là, eh bien, tu nous donnes à vivre les tragédies du monde, le monde tragique qui apparaît, et comme tu l'as bien dit tout à l'heure, qui apparaît dans des espèces de petites scénettes tragiques,
une photographie, pour moi, c'est comme une photographie.
Voilà, d'instantanée, de mouvements terribles, de la stupidité des hommes se font la guerre, la guerre ou font du mal à d'autres. Font du mal à d'autres. Alors, tu mêles, et c'est ce qu'il y a de bien. D'abord, il n'y a pas de référence précise, je dirais, journalistique des événements dont tu parles, ce qui leur permet effectivement d'avoir une généralité, une intensité beaucoup plus forte. Hein. Et tu mêles donc les événements dont nous avons parlé, c'est-à-dire à la fois Gaza, tu mêles la guerre d'Espagne, puisque effectivement cette guerre d'Espagne, comme tu vis de temps en temps en Espagne, et que l'Espagne, tu ne peux pas ne pas oublier la guerre.
Oui, ne pas oublier, même si c'est un sujet très complexe, mais il est présent.
Oui. Et ce qui se passe actuellement en Ukraine. Alors, il y a une seule chose que je n'ai pas retrouvée dans ce que tu dis, c'est peut-être, d'une façon directe en tout cas, l'événement du 7 octobre 2023. Mmh. Je ne l'ai pas retrouvé dans ces textes. Mmh. Voilà. C'est aussi un événement colossalement insupportable.
Oui, impactant, c'est sûr. Oui. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué. Je n'ai pas...
Voilà.
C'était pas une, pour moi, ça passait. Il manque ça.
Oui.
Peut-être qu'il manque ça. Oui. Peut-être qu'il aurait fallu.
Oui.
Mais ça n'est pas venu.
Oui.
Même si l'effroi l'effroi de ce qui s'est passé, l'insupportable de ce qui s'est passé, comme de tout ce qui est insupportable dans
Oui, parce que ça a déchaîné quand même le reste.
Oui. Je dirais pas que ça a déchaîné le reste. C'est une continuité parce que ça peut-être déchaîner encore plus le reste, mais c'est quand même des guerres qui sont... Voilà, l'histoire est quand même une répétition.
Oui.
C'est quand même une répétition, malheureusement.
Oui, tu veux dire, ça ne s'était pas arrêté.
Ça ne s'était pas arrêté et ça a certainement...
Oui. Il y avait...
Ça a fait des choses, mais... Mais ça ne s'était pas arrêté.
C'est quand même le pogrom du 21e siècle, quand même. C'est quelque chose d'énorme.
Oui, mais moi, je voulais pas en faire une question politique. Je le dis parce que c'était important, qu'en fait, quand je peux évoquer l'Ukraine-Gaza, c'est antérieur aussi au 7 octobre.
Oui,
c'est-à-dire la question d'être bombardé, de ne plus avoir sa maison, d'occuper des territoires, quels qu'ils soient, c'est malheureusement de l'ordre... regarder l'histoire, c'est un fait commun.
Oui.
Parce que là, c'est le focus sur trois identités, en quelque sorte.
Oui.
C'est pas...
Alors, je vais te demander de bien vouloir...
Parce que j'aurais pu, effectivement, je me dis, mais j'aurais pu écrire sur l'Afrique, j'aurais pu écrire sur l'Amérique du Sud, malheureusement, je crois que si on prend la carte du monde, je voulais faire une cartographie...
Il y a quelques semaines.
De l'effroyable, je pense qu'on a. Ça aurait été un volume trop. Ou alors je n'en serais pas sortie vivante, ou il ne serait pas encore là.
Il y a quelques semaines, ici, on a fait une émission sur trois poètes d'Amérique latine qui disent le mal-être et la guerre qu'ils ont aussi entre les narcotrafiquants qui empêchent la vie normale, hein, et qui est aussi une guerre, hein, une véritable guerre en Amérique latine.
Hein, nos dernières actualités... Voilà. Ce qui se passe en France,
justement,
à Marseille,
par la revue Nouveau Délit, où Muriel Modelli, que tu connais, a publié aussi, par Cathy Garcia Canelles, qui est allée rechercher des correspondants et qui a fait un très beau, très belle revue sur ces poètes d'Amérique latine, lesquels d'ailleurs ont fait paraître un article en langue espagnole, bien sûr, en Amérique latine, sur cette émission des poètes de Radio Occitanie. Voilà. J'ai mis d'ailleurs un extrait dans le site, hein, puisque, chers auditeurs, vous pouvez retrouver toutes ces émissions sur le site lespoètes.site. Elisabeth, on va te demander de bien vouloir nous lire des extraits, donc de « Les pas ombrés ».
Bon, je prends un peu au hasard. Je retourne les marches sur un lit de sable, comme des tiroirs pleins de goémons, les orteils déformés. Poussée d'étoiles dans le ciel, la lune déboutonne ses éclats, mais la terre n'est pas ronde au carré des cimetières. Le feu, pop-corn de la grenade, une mitraille. Le départ et l'arrivée sont sans tribune officielle. Lambeaux de chair sur le podium. Uniforme de poils hérissés. Les chiens noirs lavent, bavent, qui perd gagne. Jeune mercenaire d'un désastre. Médaille d'or pour épitaphe.
Alors, je crois que c'est une poésie qu'il faut lire aussi. Il faut absolument lire. Parce que l'emplacement des vers, c'est-à-dire de passer de médaille d'or pour épitaphe, il y a une séparation. Et c'est vrai que quand on lit, la lecture, l'emplacement des mots sur la feuille donne déjà le souffle.
Le souffle et l'éclatement, moi je dirais.
Voilà, du poème.
On voit la grenade, on sent la grenade.
Voilà. On va te demander de bien vouloir continuer, s'il te plaît.
Je te dirai je t'aime par-delà les ponts tendus des suaires, des escaliers de feu, ces décombres, des draps putrides, au lait caillé. La gazinière explose. Je te dirai je t'aime sans atout dans les manches. Pour moi, il était important aussi de donner une notion d'espérance. On la retrouve un peu à la fin du recueil. C'est-à-dire qu'il y a l'effroi, l'épouvantable, mais il faut aussi qu'il y ait la vie. Et malgré tout, il y a une forme de croyance en l'humain. Sinon,
Oui. C'est-à-dire que, c'est comme ça, mais l'amour peut sauver. Voilà, peut sauver et va... Mmh.
Les frontières disparaissent, plus au sud, plus au nord, d'Orient en Occident. Quelle heure pour une dénomination ? Poudre d'escampette, revers des démocraties, bouquet final des Olympiades. Toujours au plus présent, enfant guerrieros, femme sans étreinte, invincible mémoire, le portique d'un aéroport sonne. Plus de poètes à New York, mais cette bouteille plastique, une pince à épiler, dérisoire capture. Un autre, par exemple. Le soir entoure le jour de lueurs maléfiques. La haie, comme une herse, martèlement des langues inconnues. Pays fantôme. Tes lèvres en ont gercé de leurs flots, ces corps à la renverse, fourrés de mise en bière. La ligne du feu est pourtant plus lointaine.
Alors, il y a un texte où ce que nous disions tout à l'heure, hein, ressort bien. C'est celui-ci. Teruel, Donbass, la voix suave du GPS. Je tourne sur moi-même. Les décennies chevauchées, aucune exactitude au fond. Sur la feuille de route, dans cette géographie, nous faisons route ensemble. Derviche de la mort.
Voilà. Oui, ça résume ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. C'est exactement ça.
Donc, on voit les images, des images historiques, hein, photographiques. Et puis, ce ton qui passe d'un vers à l'autre avec une image d'un vers à l'autre. Hein. Derviche de la mort, donc on voit ce tourbillon, hein, qui est le tourbillon de la mort et de la folie des hommes.
Oui,
hein.
Le tourbillon aussi, le tourbillon des drones, le tourbillon des bombes, de la fumée, du désastre.
Les corps ont égrené leur semaille de chair. Orbite sans yeux. Broderie décousue au revers du mouchoir, la menthe sur le palier, paillasson sur la falaise, Anastasia, femme de la retirada, la neige fond, le sol craquelle, Guadalquivir, Danube, le manque des années, élargira le front du nouveau-né. Alors, toujours la menthe sur le palier, donc c'est beau ça.
Oui, c'est...
La menthe sur le palier, c'est chaque...
Mais le paillasson sur la falaise.
Voilà. Voilà, il y a aussi... paillasson sur la falaise, bon, il faut... ça se déguste, hein, ces poèmes-là. Hein. C'est pour ça que je pense qu'on ne peut les lire que très lentement et en détachant chaque vers.
Oui. Chaque vers est presque une impulsion.
Il faut vraiment les détacher un peu parce que pour en faire rejaillir toute la puissance d'évocation de vers qui sont parfois terriblement courts. Quand tu dis Guadalquivir et après Danube, bon, c'est le rapprochement du Guadalquivir et de la Danube qui donne cette image de les choses se renouvelle d'un lieu à un autre. En définitive, les choses se ressemblent et malheureusement entraînent les mêmes...
On va dire qu'un ressac permanent.
Voilà,
quoi.
C'est
un ressac.
Voilà. En tout cas, c'est là que l'on voit quand même le pouvoir d'évocation de la langue. À quel point le travail de la langue est le travail le plus important que l'on puisse faire. Et le poème, si tu veux, pour moi, en lisant ça, c'est le poème dit tellement de choses avec si peu de mots. Si peu de mots. Quand tu écris « Qui sait ?» Les épines, le chardon, la dernière bouffée et ce vol des mille ans qui sépare le ciel d'un faisceau de plumes. La dette des nuages comme des condoléances. Le cri du vent. Le cri de la voisine.
Voilà. Oui. Je peux en dire un
oui, bien sûr, bien entendu.
Voilà, qui est très... Oui, pour moi aussi, qui résume un peu ce qu'on disait, c'est... Les chats dans leur caisse se tassent dans leur pisse. Peluche d'exil, vestige animalier du luxe. Les dés renversés n'ont plus de face. Les places dans le bus sont déjà prises. Et pourtant, cette promesse du compte en banque, dernier retrait de liberté. Le passeur a pris la fuite.
Alors oui, c'est très exemplaire aussi ce poème, dans ce pouvoir toujours d'évocation qu'à la poésie, que n'a pas d'autre art, pardon, hein, de bon, ça peut paraître un peu, mais oui, c'est l'art de tous les arts, la poésie, hein, parce que il y a des images très triviales. Les chats dans leur caisse se tassent dans leur pisse. Bon, et donc vie ordinaire. Bon, mais en même temps, les chats qui se, il y a, c'est une image d'un confort domestique.
Oui,
aussi.
Un confort et le confort. Voilà. C'est-à-dire la fuite est aussi dans les caisses des chats. Oui, oui. Les chats qui partent. Oui.
Peluche de l'exil, vestiges animaliers du luxe, les dés renversés n'ont plus de face, les places dans le bus sont déjà prises. Bon. Voilà. Et pourtant, cette promesse du compte en banque. Bon, donc là, il y a une allusion aussi, bon, mais le bonheur, la richesse ne fait pas le bonheur, etc. Mmh. Ça en dit beaucoup. Hein, dernier retrait de la liberté. Et puis, terrible, le dernier vers qui est assez terrible, mmh, et qui, malheureusement, traduit une réalité sordide. Mmh. Et cette réalité sordide qui engendre toute cette tragédie, dont on parle de moins en moins d'ailleurs, des passeurs. Hein.
Oui.
Le passeur a pris
quel
la fuite,
que soit l'endroit.
Voilà. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens qui vont pour exploiter d'une façon la plus affreuse, répugnante, indigne possible d'autres personnes. Mmh. Voilà. Et là, en quelques mots, quoi. Mmh. En quelques mots. C'est pourquoi, vraiment, il faut lire ce recueil, parce qu'il faut vraiment le lire. Avoir la puissance des mots, de rapprochement des images, aller rapprocher une image des chats qui pissent dans l'orchestre et du passeur qui prend la fuite, hein, dans le même texte, à quelques vers près, à quelques mots près. Bon, c'est quand même le miracle du poème, quoi. C'est le miracle du poème.
C'est le miracle du poème, et puis ce qui nous échappe, c'est quelque chose de. Pour moi, il y a de l'ordre d'un saccage, des choses saccadées, c'est des à-coups, c'est vraiment. L'animal à l'abattoir qui va avoir un dernier coup électrique.
C'est percutant. Voilà, ce que j'ai dit dans mon premier commentaire, c'est ça. Percutant. Mmh. J'étais percuté. Oui. Voilà. Il faut. Ces poèmes, ils percutent le lecteur.
Et ils dérangent.
Mais heureusement. Oui. Enfin,
voilà. C'est vrai que souvent on me dit, mais pourquoi tu n'écris pas quelque chose de plus gai? Je pense pas que le prochain sera très gai non plus, mais parce que je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose qui m'appartient, qui est mon identité, sans que je le choisisse réellement.
Quelque chose aussi. Il y a, bien sûr qu'il y a des poètes qui font des poèmes avec plein d'humour, plein de gaieté, etc. J'ai rien contre. Mais la poésie, qu'on le veuille ou non, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui en fait un espace un peu restreint pour les lecteurs, la poésie engendre une gravité. Et tout ce recueil, c'est le recueil de la gravité, comme bien entendu, garde-moi de l'oubli.
Oui, tout à fait.
Il y a une gravité. Or, notre vie, je crois que notre vie courante est déjà dans la vie ordinaire, ce que Perros appelait à juste titre, il a bien raison, ce qu'il appelait la vie ordinaire, mais qui peut être une vie passionnante aussi, la vie ordinaire. Mais dans la vie ordinaire, elle serait pesante, cette gravité. Elle est tellement pesante. Et ces poèmes, bon, ils sont beaux, ils sont percutants, donc ils procurent malgré tout du plaisir. C'est le plaisir de la langue, le plaisir de comprendre aussi ce qu'on veut dire là-dedans, et le plaisir de la conscience. C'est tout ça que l'on a, je crois, en lisant ça. En tout cas, à moi, c'est comme ça que je le ressens. Parce qu'il y a du plaisir. C'est un plaisir peut-être très curieux. Mais c'est le plaisir aussi de la gravité. C'est-à-dire que on ne la fuit pas. Le poème ne fuit pas la gravité. Il s'en empare. Et il redonne comme un miroir au lecteur en disant, regarde-toi. Voilà. Il y a cette gravité aussi en toi. Il y a cette gravité dans le monde. Et tu dois y faire face. Et tu dois la regarder, cette gravité. Voilà.
Moi, je peux dire que ma position de poétesse, enfin dans la poésie, je n'ai pas choisi. Enfin, je crois qu'on ne choisit pas. Je n'ai pas choisi. C'est une nécessité de ma vie d'écrire. Bon, voilà, la poésie. Mais je n'ai pas. Je me dis pas le matin, ben tiens, je vais parler de des belles feuilles d'automne d'un certain confort. Non, ça m'est venu parce qu'il y avait cette nécessité de dire, si je ne le faisais pas, quoi bon, quoi. Oui. Voilà, c'est quelque chose de,
alors,
de
la
primordial,
nécessité,
une nécessité presque vitale.
Oui, c'est, absolument. D'ailleurs, je crois que, je sais pas, souvent j'ai eu à parler de ça. Et que la poésie authentique ne peut naître que d'une insupportable nécessité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en passer. On n'écrit pas, ce n'est pas ornemental. Ça ne peut pas être... Bon,
je n'ai pas envie de rassurer par des beaux mots, par des quelque chose.
Il y en a.
Pas,
oui.
Et puis il y a des choses, ça fait du bien aussi.
Pourquoi pas.
On est là aussi pour avoir une forme d'insouciance.
La poésie quand même qui marque, la poésie... que l'on va retenir, la poésie authentique, c'est celle qui naît d'une, ce que tu viens de dire, et c'est une vérité absolue, ce que tu viens de dire, c'est, ça m'est nécessaire. Je vais écrire ça, parce que c'est nécessaire pour moi d'écrire ça. Voilà.
Je n'ai pas fait,
tellement
le
fort.
Mot, voilà.
Oui.
C'est vraiment ça, enfin, oui. Pourquoi...
Oui. Je ne sais plus qui disait aussi
ma respiration, ça dédouble ma respiration, ça dédouble tout mon quotidien, qui par ailleurs, je ne suis pas... Par ailleurs, j'adore rire et vivre. Et je suis plutôt une bonne vivante.
Oui.
Mais il y a cette part absolue de ma poésie qui est peut-être pas la plus facile à lire, la plus facile à ressentir.
Oui. Parce que tu es dans... Parce que,
j'en suis consciente.
Tu es sensible à la gravité, tu la ressens. Et tu ressens le besoin absolu de pouvoir le dire. Voilà. Je crois que beaucoup de gens pourraient le ressentir, mais il y a un mécanisme en eux certainement qui freine ça, qui empêche. Parce
en
que
tout cas, je ne me limite pas.
Ça peut être dérangeant aussi.
Oui,
ça peut être dérangeant.
J'en
préfère aller rigoler de la couillonnade de qui passe sur la télévision, etc. Dont on a besoin pour éviter justement d'être submergé aussi par la gravité. Alors on va. Je vais lire ce texte aussi. Le camp des réfugiés, la zone commerciale. Changer le mot de passe. Arrêt du Vernet. Ou Guernica, les jeunes lycéens descendent. La soupe de l'avenir surplombe les champs de sorgho. Il n'y a pas eu de retard, juste quelques appels en attente. La pochette transparente du cœur et la leçon récitée d'un ange.
Oui, ça c'est un trajet très très court entre Toulouse et Pamiers.
Oui.
Mais avec cette vision des jeunes, justement, qui regagnent leur domicile et qui passent au Vernet, peut-être sans savoir qu'à côté, il y a cette mémoire d'un camp.
Le camp des...
Et ces téléphones éteints, ces appels en absence, voilà. Oui, tout est dit. Pour moi, là encore, tout est dit sur quelque chose de très de fugace, d'un quotidien...
Mais une poésie terrible. Et la leçon récitée d'un ange,
oui.
C'est extraordinaire, cette association. Oui. C'est vraiment le travail de la poésie.
L'ange est souvent présent dans ma poésie.
Oui.
L'ange...
Oui.
Sera toujours présent, je ne sais pourquoi.
Tu parles des vaches aussi, j'aime bien ça. Contre toute attente, seules les vaches savent l'heure de la traite. Ce frémissement de fin de pré, dans le gris du ciel, soudainement aligné vers une étable mauve. Mais pas de trêve au plus loin de la haie. Treillis des hommes en pâture, casque à brevoir, cela se dégrade toujours au front. Ah. Donc il y a l'image des vaches avec ce que cela comporte comme image...
Immuable.
C'est-à-dire, tranquillité, l'immobilité, et puis bon, c'est l'heure de la traite, et elles y vont toutes seules, parce qu'elles sont dans la routine tranquille. Voilà. C'est l'image de ces animaux paisibles. Et puis en même temps, ce frémissement de fin de bril, de près, c'est-à-dire toute cette nature qui est quand même une nature, malgré tout, qui reste une nature enchanteresque, en tout cas très, 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 très agréable, très, très paisible. Et puis, tout d'un coup, pas de trêve. Voilà. Pas de trêve au plus loin de la haie. C'est-à-dire que pendant que les vaches vont se faire traire,
si loin, si proche.
Il est donné à l'homme de pouvoir s'extraire de cette sérénité pour justement, mais c'est aussi ce côté universel qu'a l'homme de pouvoir souffrir avec d'autres hommes aussi, même si lui-même ne souffre pas. Hein. Pas de trêve au fin de l'année, treillis des hommes en pâture, casque à bourvoir, cela se dégrade toujours au front. C'est-à-dire, la pensée peut aller ailleurs et peut aller dans des endroits où, au contraire, eh bien, là-bas, ce sera la violence et ce sera la guerre.
Et pour moi, il y avait l'image du casque à revoir. J'ai beaucoup pensé à ce moment-là, à cette image aussi dans les étables des anciens systèmes où les vaches appuyaient. Ça faisait comme un abreuvoir, presque un casque retourné. Et j'avais cette image aussi des têtes, du front, le front qui touche l'abreuvoir. Il y avait tout ce mélange, en fait, ce quotidien de la nécessité de boire et en même temps cette tête qui peut disparaître, cette image du soldat.
Donne comme métaphore.
Voilà, cette bascule.
L'abreuvoir, effectivement, qui est un petit récipient.
Petit récipient qui peut ressembler.
Oui, qui peut ressembler parce qu'il est rond et qu'il est en métal et les vaches qui savent que si elles vont là en appuyant, elles vont avoir de l'eau
mais en même temps
on peut y avoir cette métaphore l'image renvoie à quelque chose de terriblement différent
et terriblement abject en même temps c'est le mot qui me vient mais abject.
Alors, tu disais, il y a quand même de l'espérance.
Oui.
Dans les derniers vers, peut-être aussi.
Oui, les derniers,
Voilà. Tu veux bien nous le lire.
Alors. Un rêve de compas et de rosace. La lumière s'éteint doucement. Le simple cours du jour d'une chambre à la cave. Demain, tu me prendras par le bras. Tu glisseras discrètement dans ma paume leur hiéroglyphe. Nous avancerons sans savoir leur retour, sans avoir baptisé le lit, sans avoir dénombré les failles obscures, ni dénoué les nœuds de nos chaussons de bruine. Mais ne pas avoir à ranger l'infini des mémoires.
Voilà.
Ne pas avoir à ranger l'infini
des mémoires. Voilà. Alors, j'insiste encore, il faut vraiment lire le texte aussi, parce que là aussi, on voit le texte se construit dans la page, ni dénouer les nœuds de nos chaussons de bruine, et puis plus loin, au milieu de la page, il y a mais, le mais qui est tout seul. Et puis après, ne pas avoir à ranger l'infini des mémoires. Voilà. Attention, il y a tout ça, mais il ne faut pas perdre la mémoire de ce qui s'est passé. Voilà. Alors, pourquoi il ne faut pas ranger l'infini des mémoires ?
Il faut être toujours dans la vigilance. Pour moi, c'est cette notion de ne pas oublier ce qui a été fait, ce qui continue à être. Ouais. Ne pas oublier ceux qui sont partis, qui n'ont pas choisi de partir, ne pas oublier notre humanité. En fait, l'humanité de ceux qui ont combattu des fois sans savoir même pourquoi, mais qui étaient ou enrôlés de force ou avec un idéal ou un idéal qui s'est rompu. C'est ça, c'est garder tout le temps notre humanité et ne pas oublier ce qu'on est, ce qu'ont été les autres. C'est... Pour moi, voilà, c'est rendre toujours hommage. Enfin, il y a cette question d'où l'on vient.
Oui. On ne peut savoir qui l'on est que si on sait d'où l'on vient.
Et parfois, normalement, oui, hein? Mais parfois on ne sait pas d'où l'on vient. Oui. Certaines personnes n'ont pas, ou ne peuvent pas accéder à ça, mais surtout
les
ne
mémoires,
pas...
l'infini de mémoire dont tu parles, ça c'est l'histoire.
C'est l'histoire.
Donc on ne peut pas, pour savoir ce qui est aujourd'hui, pour savoir ce qui est aujourd'hui, il faut avoir su ce qu'était hier. Mm. Voilà. Et après ce que tu dis, il y a une phrase de Louis Aragon qui parle sur l'affaire de guerre de 14, Louis Aragon. Hein. Il y a une phrase terrible de Louis Aragon qui dit la guerre de 14-18, c'était une affaire de vieux. C'était des problèmes de vieux qui exaltaient les vieux, mais ce sont les jeunes qui n'avaient rien à voir
qui
avec ces
sacrifiés.
Affaires-là qui l'ont faite.
Ouais.
Voilà. Et j'ai trouvé que c'était très juste. Hein. Bon, lui, effectivement, était jeune, a fait cette guerre. Il avait compris que c'était une affaire de vieux, c'est-à-dire que c'était des gens qui avaient vécu autre chose et bon, qui avaient vécu la fin de l'Alsace-Lorraine française, etc., etc., qui faisaient cette guerre de 14, hein. Mais que c'était lui, dans le fond, il n'avait rien à faire, quoi.
Puis on peut réécouter Aragon. Oui. Je ne parle pas de moi, bien sûr, mais tous les poèmes chantés.
Oui.
C'est voilà, toute cette mémoire là aussi.
Oui.
Hein.
Oui. On va finir sur un dernier texte.
Alors, un dernier texte.
Bon, j'en ai un très court.
Oui. Allez.
Dans ta main, aucun calendrier, pas le moindre poinçon, ni caillou blanc, ni miettes pour le rouge-gorge, un dimanche de bruit si banal, le couvre-feu peut-être.
Là
aussi, peut-être le couvre-feu va s'arrêter. Et puis, j'ai remarqué que tu employais souvent poinçon.
Alors, c'est comme l'ange.
Oui.
L'ange et le poinçon.
Le poinçon, c'est ce qui permet le repère.
Oui.
Le repère.
Il y a des récurrences éternelles.
Très beau recueil, Les pas ombrés d'Elisabeth Aragon, collection Esparto, aux éditions Hasard Atelier.
Voilà, Hasard Atelier Édition, vous le trouvez sur Internet.
Internet, et puis vous le retrouvez
sur le site de...
Sur notre site, lespoètes.site, où vous retrouverez cette
prochaine
émission.
Prochaine souscription.
Voilà. Merci Elisabeth,
merci.
À la semaine prochaine, à Dichatz.